Bonjour à tous, Liliane sur Radio Grand Ciel pour l'émission Figure de l'Histoire. Nous sommes en 1939. Nam Phuong, impératrice d'Annam, mariée à Bao Dai, a jusqu'alors mené une vie, semble-t-il, facile. Très pieuse, elle fait beaucoup de bien autour d'elle. Le couple impérial vient d'effectuer un séjour en France avec ses enfants, alors que la situation est grave, puisque la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Il semble que l'empereur ne se rende pas compte qu'en Indochine, ça va pas bien non plus. Depuis 1937, le pays vit au bord de la guerre. La tension est ancienne entre la Chine et l'empire nippon. Et pourquoi donc? Eh bien, à propos de la Corée, elle a été annexée par Tokyo au début du siècle. La guerre entre les deux pays a éclaté en 1937. Shanghai et Nankin sont occupés par les Japonais, qui contrôle toute la Chine orientale. Et pendant ces premières années de guerre, celle-ci n'a pas vraiment affecté l'Indochine. On peut encore avoir l'impression qu'il s'agit d'une crise grave, certes, mais extérieure à la colonie. En 1940, la France est occupée, mais le conflit se rapproche des frontières de l'Indochine. En 1941, la Chine républicaine entre officiellement dans le conflit, aux côtés des Alliés. Le conflit devient alors mondial. Du fait de l'instauration du régime de Vichy, le personnel colonial en Indochine change. Le gouverneur général Catrou passe en France libre. Il est remplacé alors par l'amiral Decou. Il n'a aucun moyen militaire, il est coupé de la métropole, il se voit contraint de collaborer avec les Japonais qui laissent en place l'administration française. C'est une situation, on peut dire, tout à fait ambiguë. Et cette situation, l'Indochine va la vivre jusqu'en 1945. L'empereur et l'impératrice vont passer toute la guerre à Dalat. Je vous rappelle que Dalat est situé sur les hauts plateaux et ils ont là une très belle résidence. Ils s'entendent bien avec le nouveau gouverneur et avec sa femme, monsieur et madame donc Decou. Les Decou sont de fervents catholiques, ceci explique cela, à cause de l'impératrice. On peut dire que sur le plan social et matériel, pour l'instant, rien ne semble bouger dans la vie de l'impératrice. Madame Decou et l'impératrice coopèrent largement en matière de bonnes œuvres. Et pendant les années où l'Indochine a été isolée, l'amiral ne veut pas rester les bras croisés. Le développement est considérable dans tous les domaines, hydraulique, agricole, des routes, des ports maritimes, des ports fluviaux et des établissements universitaires, des établissements d'assistance et de bienfaisance, de grands services administratifs, des cités de logement ou de repos. Le traitement des fonctionnaires métropolitains et indigènes sont égalisés. Et c'est sous l'amiral Decou qu'on emploie pour la première fois le mot « Vietnam ». On construit aussi le collège d'Adran, qui est dirigé par les frères de la congrégation Saint-Jean-Baptiste de La Salle, où le prince Bao Long, c'est-à-dire le petit aîné, va aller à l'école. En 1942 se termine la construction d'une nouvelle cathédrale. L'amiral Decou souhaite faire de Dalat la capitale de l'Indochine. Il tient à mettre en avant l'impératrice de façon à ce que Bao Dai et Nam Phuong donnent l'image d'un jeune couple moderne, dynamique, incarnant l'Indochine nouvelle de l'avenir. Alors on met sur pied de grandes manifestations officielles, par exemple les réceptions officielles du roi Sihanouk du Cambodge. La participation d'une femme à la réception d'un souverain étranger, c'est absolument nouveau en Annam. À son tour, le couple se rend au Cambodge. C'est un véritable succès. Et c'est à cette occasion que l'on émet le premier timbre poste à l'effigie de la jeune impératrice Nam Vong. Et ben pour être juste, elle est plus belle dans la réalité que sur le timbre. Le timbre n'est quand même pas une réussite. En février 1942 et septembre 1943, naissent deux autres enfants, une fille et un garçon. Si bien qu'en tout, l'impératrice a donc 5 enfants. Elle s'occupe de très près d'eux. Outre la domestique chinoise, le personnel chargé des enfants est toujours francophone. Tout semble bien aller, mais la situation politique intérieure et internationale se dégrade et va bientôt se sentir à Hue, qui est la capitale de l'Annam, et à Dalat. Les communistes sont de plus en plus remuants au Tonkin. Depuis 1944, les partisans de la France libre commence à mieux s'organiser et à intervenir contre les forces japonaises. Certaines troupes nippones, d'ailleurs, se sont installées tout près de Dalat. Et à partir de la bataille d'Okinawa en avril 1945, les bombardements américains s'intensifient, y compris autour de Dalat. Et pendant que la situation se dégrade, que fait l'empereur ? Eh bien, l'empereur s'occupe surtout de ses maîtresses. Ce qui blesse beaucoup l'impératrice, qui, elle, s'inquiète pour ses enfants et pour l'avenir du pays. Lui, Bao Dai, s'occupe de sport, de chasse, de voitures, d'avion. Une affaire a été très sérieuse à propos de maîtresse. Bao Dai a en effet offert une villa superbe à l'une d'entre elles, qui est fille d'une riche famille aristocratique, et elle se verrait bien comme seconde épouse. On peut dire qu'après la naissance du cinquième enfant, le couple commence à se briser. À ces difficultés vient se superposer une situation politique absolument explosive. Les Nippons s'inquiètent de l'action des premiers réseaux de résistance. En 1944, les USA ont commencé à bombarder les positions nippones en Indochine. Ils atteignent Saïgon en janvier 1945. Les Japonais décident alors d'en finir avec la présence française en Indochine et de prendre le contrôle direct, politique et militaire de la péninsule. Alors ils passent à l'action le 9 mars 1945. Un ultimatum est adressé à l'amiral Decoux, exigeant que les troupes françaises se placent sous le commandement nippon. En même temps, toutes les garnisons sont attaquées, les fonctionnaires sont arrêtés, l'amiral est mis aux arrêts. Dans toute l'Indochine, officiers et soldats français sont exécutés. En moins de 48 heures, les Japonais se sont rendus maîtres de l'Indochine, commettant d'innombrables atrocités. Par exemple, le général Lemonnier, invité à une réception, est décapité au sabre par ses hôtes à la fin du dîner. Allons faire une première pause musicale. Thank you. Nous sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de la dernière impératrice d'Indochine, exactement de Cochinchine, c'est-à-dire au sud de l'Indochine, à qui on a donné le nom de Nam Phong. Et là, je viens de vous dire que les Japonais ont, en 48 heures, complètement envahi l'Indochine et chassé tous les Français. Que fait Bao Dai, lui, le 9 mars ? Eh bien, tenez-vous bien, il est parti à la chasse. Les Japonais l'ont déjà sondé pour savoir s'il accepterait de proclamer l'indépendance du Vietnam. Eh bien, il écoute, il n'en parle même pas avec les Français. Il a d'ailleurs d'excellentes relations avec le représentant japonais à la cour d'Annam. Ce dernier demande à Bao Dai de faire préparer une déclaration d'indépendance du Vietnam. On ne parle plus de l'Annam seulement, au sein de la sphère de la plus, de, on peut dire, de la, d'une prospérité énorme de la grande Asie orientale. Cette idée est la suivante. Rassembler les peuples jaunes de l'Asie orientale pour une coopération économique et politique qui aiderait à se libérer de l'emprise blanche. Si je résume, ça fait finalement l'Asie aux Asiatiques. Bao Dai, lui, ben, il accepte la situation. Plus de protectorat avec la France. Un nouveau gouvernement est mis en place. Et bien sûr, cette indépendance octroyée par les Nippons divise profondément la communauté catholique d'Indochine. La première préoccupation de Nam Phong, c'est de protéger ses 5 enfants. En fait, l'indépendance ne déplaît pas à l'impératrice, même si elle l'a rêvé plus progressive et pas sous la domination japonaise. Justement, la situation militaire de l'Empire nippon devient désespérée en août 1945. Et après les 2 bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, Tokyo annonce sa capitulation le 15 août 1945. Le nouveau Vietnam se trouve indépendant et réunifié, c'est-à-dire l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine. Reste à faire admettre cela par les vainqueurs. Et les chances de réussite sont quasi nulles. Parce qu'au Vietnam, la révolution Viet Minh, cette fois, va être longue et périlleuse pour Bao Dai et l'impératrice et les enfants. Les officiers japonais respectaient la fonction impériale. Mais les communistes là, du Viet Minh, pas du tout. Ils la détestent autant que les bolcheviks russes en 1917. Je vous fais un petit peu d'histoire. Le communisme est apparu en Indochine dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1930, Ho Chi Minh, militant de longue date au sein de l'Internationale communiste, qu'on appelle le Comintern, pour le compte de Moscou, a créé le Parti communiste indochinois à Hong Kong. En juin 1941, ce parti organise une Ligue pour l'indépendance du Vietnam, en abrégé Viet Minh, qui lutte contre la colonisation japonaise et nippone. En 1944, Ho Chi Minh prend contact avec des émissaires américains. Les États-Unis commencent à le soutenir, car Washington exclut tout retour des Français en Indochine après la guerre. En août 1945, le pouvoir est à prendre. Parce que les Français sont prisonniers, les Nippons s'en vont. Et bien alors, qui va se placer là ? Le Viet Minh, bien sûr. Il forme alors un gouvernement révolutionnaire qui contrôle ou élimine toutes les oppositions. Le 2 septembre 1945, l'indépendance du Vietnam est à nouveau proclamée et se crée une république démocratique. Et l'empereur, qu'est-ce qu'il devient dans tout ça ? Eh bien, on exige son abdication. Le 22 août, il reçoit un ultimatum lui demandant de remettre tous ses pouvoirs avant 13h30. Moyennant quoi, sa sécurité et celle de la famille impériale seront garanties. Eh bien, c'est fait. Le 25 août, Bao Dai doit donner toutes les armes qui sont dans le palais, Dès le lendemain, la reine-mère doit quitter le palais, et le surlendemain, c'est au tour de Nam Fong et des enfants. Où est-ce qu'ils vont, tout ce monde-là? Eh bien, ils sont regroupés dans un vieux palais qui s'appelle An Din. La résidence est surveillée par un commissaire politique. Les enfants vont à l'école du quartier communiste, contrôlée bien sûr par les autorités. L'impératrice se montre conciliante et même coopérative avec le Viet Minh. Alors, on s'est toujours demandé quel était son rôle là-dedans et ce qu'elle pensait vraiment. Est-ce qu'elle avait peur? Peut-être parce que de hautes personnalités ont quand même été assassinées. Elle connaît le sort de la famille impériale russe. Donc, face à ces événements, la France adopte une double politique. Parce que la situation politique et militaire, c'est différent au nord, dans le Tonkin, où le Viet Minh est le mieux implanté, et au sud, c'est-à-dire tout à fait en bas, c'est en Cochinchine. Parce qu'il faut se souvenir que la Cochinchine, c'est un territoire juridiquement français. Eh bien, la Grande-Bretagne, elle n'est pas aussi le retour de la France en Indochine. C'est la Royal Navy qui fait passer les troupes françaises du général Leclerc, chargé de rétablir l'autorité de la France. Cette mission, alors, est confiée au haut commissaire et commandant en chef, l'amiral Thierry d'Argentlieu, nommé le 16 août 1945. Il s'installe à Saïgon, protégé par les troupes de Leclerc. Au nord, de Gaulle nomme Jean Saint-Denis résistant, homme de gauche, et lui, il va entamer une négociation longue et difficile avec le Viet Minh. Et revenons alors à notre impératrice. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle avait peur. Le Viet Minh lui fait signer une lettre. Et bien sûr, ça n'est pas elle qui l'a écrite, cette lettre. Elle est contemporaine d'autres lettres, d'ailleurs. Il y a 4 évêques annamites, par exemple, qui envoient une lettre au pape Pie XII, le 23 septembre 1945, une autre aux chrétiens du monde, le 4 novembre, demandant finalement de soutenir la nouvelle indépendance du pays. Pour Nam Phong, comme pour beaucoup d'autres catholiques, le Viet Minh, c'était avant tout symbole d'indépendance. Est-ce qu'elle a fermé les yeux? Est-ce qu'elle n'a pas su? Ses excès, ses assassinats politiques, son athéisme foncier, ses liens avec Moscou sont encore quasiment inconnus. Toutefois, très vite, les missionnaires qui sont bien renseignés vont être parfaitement au courant de la politique des communistes à l'encontre des catholiques. Donc l'impératrice aussi. Sous n'importe quel prétexte, les Viet Minh arrêtent les prêtres, les chrétiens, annamites, puisqu'il y en avait eu de plus en plus, et même les évêques indigènes. Nam Phong s'efforce de maintenir les apparences, mais finalement, elle est inquiète, parce que la vie au palais est extrêmement difficile. Tout le personnel est Viet Minh et rencontre chaque jour de ses activités. Elle n'a pas d'argent parce que tout est bloqué, peu de nourriture, les Français, eux, sont assiégés dans leur quartier, les femmes des militaires prisonniers se sont réfugiées à la Providence chez les pères des missions étrangères. Les manifestations anti-françaises se multiplient, on assiste aussi à des disparitions et à des exécutions. Nous allons faire une deuxième pause musicale.
Thank you.
sommes sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de la dernière impératrice de Cochinchine, Nam Phong. Et en ce moment, l'Indochine est envahie par le Viet Minh. Le Bao Dai, l'empereur, il a démissionné. Elle, avec ses enfants, se retrouve dans un palais vieux, délabré. Elle n'a pas d'argent, la nourriture n'est pas bonne. Les femmes des militaires arrêtés se sont réfugiées chez les pères des missions étrangères. Et que fait Bao Dai pendant ce temps-là? Eh bien, il ne reste pas là, figurez-vous. Il s'en va en Chine, en mars 1946, si bien que l'impératrice Nam Phong reste seule avec ses 5 enfants. L'une des rares personnalités à se soucier du sort de l'ex-impératrice, c'est le père Louis de la Trinité. Qui est-ce? Eh bien, figurez-vous que c'est l'amiral Thierry d'Argentlieu. Il souhaite que des démarches officielles soient faites pour le Saint-Siège, auprès des Chinois responsables du maintien de l'ordre en zone nord, en vue d'obtenir le transfert de l'impératrice à Saïgon, c'est-à-dire en Cochinchine française. Eh bien, cela ne lui est pas accordé. Elle va bientôt se réfugier, elle aussi, chez les missionnaires québécois de Hué, à la Providence, pendant que son époux mène joyeuse vie avec ses deux maîtresses. Nam Phong pense alors à un rétablissement de la monarchie avec, comme empereur, je pense que vous l'avez deviné, son fils bien sûr, et le soutien des catholiques. Et en réalité, elle se sent de plus en plus seule et un peu quand même fatiguée de tout ça. Le 23 novembre 1946, les hostilités se déclenchent. La marine française bombarde Haïphong. L'impératrice pense alors qu'il lui faut partir, mais partir où? En France, bien sûr. Vous vous rappelez qu'elle y a fait ses études. Mais pour elle, ça pose un problème, parce que ça compromettrait l'avenir dynastique du prince héritier. Elle a toujours été persuadée que son fils aîné pourrait devenir empereur. Elle reste donc, comme je vous l'ai dit, chez les pères de la Providence. Elle s'y sent un peu plus en sûreté, même si les pères ne sont pas armés. De là, elle suit la guerre entre les troupes françaises et le Viet Minh. Pour assurer la sécurité de l'impératrice, les militaires français décident de la loger avec ses enfants au siège local de la Banque d'Indochine à Hué, dans la salle des coffres, figurez-vous, au moins la nuit et lors des bombardements. Nous sommes alors en février 1947. Les troupes françaises réussissent à chasser celles du Viet Minh de Hué. La ville est complètement défigurée. La cité impériale a été incendiée. Nam Phong remercie du fond du cœur le directeur de la banque, M. Fafard. Plus tard en France d'ailleurs, elle lui confiera un temps la gestion de ses biens. Le 12 avril 1947, l'armée française prend en charge Nam Phong et ses enfants. Ils sont conduits à Dalat, dans la maison familiale, où l'impératrice retrouve sa mère et le reste de la famille. Elle va y rester 4 mois. Elle décide alors de partir pour la France, avec l'espoir de revenir un jour au Vietnam et y amener bien sûr son fils comme empereur. Le 1er septembre 1947, elle s'envole vers Saïgon puis Hong Kong. Elle y retrouve Bao Dai, qui donne l'impression de l'avoir complètement oublié, papillonnant, on peut dire, de maîtresse en maîtresse. Le 25 octobre, toute la famille s'envole pour la France, sauf Bao Dai, lui, il s'en va à Londres. Pour l'impératrice, c'est un déchirement de quitter la Cochinchine et la Nam. En même temps, elle se sent coupable d'avoir fui devant le danger. La voilà maintenant à Cannes. Ils ont là un très très beau château. Alors, fini les bombardements, bien sûr, plus de disparitions, fini les assassinats et les incertitudes du lendemain. Bao Dai, quand même, finit par rejoindre la famille dans ce château, on dit c'est le château de Thorenc. Cependant, en France, en 1948, eh bien, c'est une année, on peut dire, maussade. Le pays traverse une crise financière grave, les gouvernements successifs, pensez-vous, il y en a eu 3 dans le seul mois de septembre, n'arrivent pas à s'entendre, ni sur les finances, ni sur l'Indochine. Les grèves éclatent dans les mines, l'armée intervient. Pour Nam Phong, commence quand même une vie nouvelle. Elle a toujours, toujours aimé les bijoux. Elle en commande beaucoup à la maison Boivin. Ils seront vendus d'ailleurs aux enchères à Paris en 2004. Et bientôt, elle achète un appartement immense à Neuilly, puis un chalet dans la station de sport d'hiver de Valberg. Tout ça grâce au rapatriement du patrimoine familial. Il faut se rappeler, dans mon émission précédente, je vous l'ai dit, sa famille à elle est extrêmement riche. D'ailleurs, c'est la famille qui subvenait aux besoins de Baoda qui n'avait pas d'argent. Nam Fong se remet au tennis, au piano, il lui arrive même d'accompagner son époux au casino. Et voilà que les négociations reprennent entre l'empereur et le gouvernement français à Genève, le 7 janvier 1948. L'impératrice y participe. Les négociations sont difficiles. La Grande-Bretagne vient d'accorder à l'Inde son indépendance, mais elle n'a pas le Viet Minh en face d'elle, l'Angleterre. Le 5 juin 1948, dans la baie d'Along, la France reconnaît l'union du Tonkin, de la Nam et de la Cochinchine indépendantes, mais sous le protectorat des forces armées françaises. C'est déjà un petit pas en avant. Bao Dai donne aussi l'impression de repartir vers une vie nouvelle. Il voyage avec l'impératrice et le prince héritier, qui a maintenant 12 ans. Ils vont même en pèlerinage à Lourdes. Les enfants reprennent leurs études. Le prince aîné, il s'appelle Bao Long, est pensionnaire au collège des Roches, momentanément installé près de Pau. Vous savez que maintenant, il est en Normandie. C'est un élève qui s'ennuie un peu, se replie beaucoup sur lui-même. L'aînée des filles, elle part au couvent des oiseaux, comme sa mère, et sa tante avant elle. Et le prince Bao Tang, deuxième enfant, est confié à l'Institut Stanislas à Cannes, qui est l'adex de celui de Paris. Un petit rappel de ce collège, cet institut Stanislas. De lui sont sorties différentes personnalités, par exemple le général Végan, le duc Philippe d'Orléans ou même Guillaume Apollinaire, figurez-vous. Les deux autres filles, elles, apprennent sur place chez les sœurs de l'Assomption. Pendant ce temps, la situation se détériore en Extrême-Orient et on peut dire dans la famille aussi. Bao Dai recommence sa vie de patachon. Cette vie personnelle le déconsidère absolument, tant en métropole qu'en Indochine. Ajoutez-y son trafic sur les piastres. Je ne vais pas vous développer l'affaire, mais ça a fait grand bruit à l'époque. Et il s'est enrichi considérablement en trafiquant. Figurez-vous qu'il a réussi à placer 800 millions de francs, de l'époque quand même, dans les banques françaises et suisses. Les retombées s'en font sentir sur l'impératrice. En ces années 1949-1952, les transferts financiers, les achats immobiliers et les opérations bancaires de l'impératrice comme de l'empereur paraissent spécialement surveillés par les autorités françaises. À la suite du traité de la baie d'Along, Bao Dai est devenu le chef d'État de cet État indépendant qui a été créé. Alors il part en Indochine en avril 1949. Nous allons faire une dernière pause musicale. Thank you. Nous sommes toujours sur Radio Grand Ciel. Je vous raconte la vie de la dernière impératrice de Cochinchine, Nam Phong, mariée à Bao Dai. La Indochine est devenue indépendante et Bao Dai a été mis à la tête de cet État indépendant. Il est donc parti en Indochine en avril 1949, tandis que l'impératrice reste en France avec ses enfants. Lui s'installe à Dalat et pendant 5 ans, de 1949 à 1954, il ne va pas cesser ses allers-retours entre Dalat et Cannes. Il n'est jamais là où se joue l'avenir du Vietnam finalement, et il se révèle tout à fait incapable d'imposer son autorité. On peut dire qu'il donne l'impression de se laisser porter par les événements plutôt que de les contrôler. À Cannes et dans la région, l'impératrice sait se faire apprécier. Elle s'occupe de nombreuses œuvres de charité. Elle a la joie de pouvoir faire venir sa mère en France. Elle fréquente quelques personnalités liées à l'Indochine, mais elle est aussi minée par la vie de son époux. Non seulement il installe somptueusement ses maîtresses, mais il en a eu des enfants. Si bien que, à partir de 1952, le conseil de famille de l'impératrice met fin à tout subside à son mari. Eh bien, revenons à la situation en Indochine. Sur le terrain militaire, ça empire. La fin de la guerre de Corée en juillet 1953 va permettre à la Chine communiste d'accroître son aide au Viet Minh, alors que les USA se refusent à intervenir dans le conflit autrement que par une aide financière et logistique. Alors il va falloir négocier. De nombreuses personnalités vietnamiennes, françaises et étrangères viennent consulter Nam Phong. Elle demeure dans le jeu politique. Le gouvernement français et celui des USA insistent pour que l'impératrice et le prince héritier retournent au Vietnam, tant sa popularité à elle y est restée importante. Elle pourrait donc encourager Bao Dai à une plus grande activité publique. En novembre 1952, elle ne s'est toujours pas décidée. Les mois passent, le gouvernement vietnamien souhaite que le prince héritier fasse ses études universitaires à Hanoï. On le voyait bien remplacer son père avec Nam Phong comme régente. Le 10 avril 1954, alors que la garnison de Dien Bien Phu mène son dernier combat et que les conférences de Genève se préparent, Bao Dai quitte le Vietnam à jamais et rentre en France. Pendant la conférence qui règle le sort de l'Indochine, Bao Dai se promène et s'achète la plus chère des Rolex. L'Indochine, les morts de Dien Bien Phu, la victoire du Viet Minh, les souffrances des réfugiés, ça n'est pas du tout son affaire. La République du Vietnam est proclamée. Bao Dai à Cannes, Bao Dai et Nam Phong ne sont plus rien. Le château de Thorenc est vendu et la vie continue sur un grand pied grâce à la fortune de l'ex-impératrice. Le prince héritier entre à Saint-Cyr, puis il fait l'école de Saumur et en 1958, il s'engage dans la Légion et part pour l'Algérie. Et Nam Phong pour la Corrèze. La dispersion de la famille est consommée. Elle s'installe dans un petit village qui s'appelle Chabrignac, à la limite du Périgord noir. Elle rompt ainsi avec son existence précédente. Elle en a assez d'être une femme trompée. Elle est une impératrice déchue. Elle avait fait venir à Cannes un kiné. Eh bien, le kiné, il la suit à Chabrignac et il devient son amant. Elle le présente comme son régisseur. Alors, en fait, ils sont quand même très discrets. Et Nam Phong montre une joie de vivre qu'on ne lui a pas vue depuis bien longtemps. Les enfants viennent en vacances en Corrèze, mais la maman de l'ex-impératrice qui vit à Paris ne viendra jamais. Elle n'accepte pas du tout que sa fille ait un amant. L'ex-impératrice a alors 45 ans et elle a encore envie de vivre. Le personnel est assez restreint, les visites sont peu fréquentes, elle réussit à se faire aimer dans la commune. Elle se promène souvent à pied, elle parle facilement aux gens. Sa voiture est une voiture modeste pour faire ses courses. Nam Phong lit, s'occupe des fleurs, cuisine. De la cuisine vietnamienne, bien sûr. Elle adore les grosses brioches corréziennes. Elle aime vraiment cet amant qui s'appelle André Moureau et elle est très généreuse à son égard. Le dimanche, elle va à la messe à Chabrignac. Elle s'y intéresse à l'éducation des enfants et à l'école communale. D'ailleurs, elle y fait de nombreux dons. Nam Phong n'est pas en très bonne santé depuis plusieurs années. Je vous avais dit dans la précédente émission qu'elle avait un problème de surdité. Ça s'est tout à fait amplifié. Le 15 septembre 1963, elle se plaint de la gorge et le médecin déclare qu'il s'agit simplement d'une angine. Mais l'après-midi, le mal s'accroît, elle commence à suffoquer. Et en fait, elle souffre de ce qu'on appelle un phlegmon. Quand un autre médecin arrive avec les secours, eh bien elle est en train d'expirer à côté de son employé de maison et de sa cuisinière. Il aurait fallu faire une trachéotomie, mais personne n'a osé. Les obsèques très simples ont lieu dans le village. Bao Dai et la famille, quand même, se sont déplacés. Mais personne de l'église n'est venu. Le préfet, oui. La tombe est extrêmement simple. Contrairement à celle somptueuse de Bao Dai dans le cimetière de Passy. Tout de même, une messe sera dite pour elle à Saint-Honoré d'Elo à Paris, sans la présence des représentants des missions étrangères à qui elle avait fait pourtant autant de bien. Au revoir à tous.